La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et bonjour à tous, c'est l'histoire d'un pied noir d'Algérie qui a décrit son enfance sous le soleil de la Méditerranée comme une sorte d'enchantement dont la pauvreté n'altérait pas le bonheur. Albert Camus, qui a vécu une grande partie de sa vie à Paris, est demeuré un homme du sud, de la Méditerranée, de Lourmarin aussi, où il est enterré depuis l'accident de voiture qu'il a emporté à l'âge de 46 ans en 1960. Sa personnalité retrouvait d'ailleurs parfois des accents méridionaux, comme nous l'avons raconté lundi avec Virgile Tanaz, l'un de ses biographes, au cours d'une émission disponible évidemment à la réécoute. Son œuvre, elle est faite de pièces de théâtre, d'articles et de romans, mais ce sont surtout ces derniers qui demeurent les plus célèbres, La Chute, La Peste, L'Étranger. Nous en avons parlé hier en compagnie d'Agnès Spiekel, qui est revenue également sur les carnets d'Albert Camus, véritable laboratoire de l'œuvre en train de naître. Et puis demain, nous parlerons de politique et aussi de théâtre, ce sera avec Jean-Yves Guérin, qui analysera pour nous le positionnement du prix Nobel de littérature 1957. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler du rapport de Camus avec la Méditerranée et singulièrement avec l'Algérie et les écrivains algériens, nous sommes en compagnie de Martine Mathieu Job, professeure émérite à l'Université de Bordeaux, autrice de nombreuses études sur Camus et contributrice notamment du dictionnaire Albert Camus, paru aux éditions Robert Laffont en 2009 sous la direction de Jean-Yves Guérin. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres.
L'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter. Et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité.
Une déclaration qui date de 1958. Bonjour à vous, Martine Mathieu Job.
Bonjour.
Cette déclaration qui ne doit pas vous étonner beaucoup.
Non, en effet, elle est très caractéristique du balancement et de la recherche, de la mise en mouvement d'une pensée toujours à l'affût d'une autre étape. C'est vraiment la façon dont Camus procède, à la fois dans sa vie et dans son œuvre.
Il procède comme ça, dans son rapport justement à l'Algérie où il est né.
Tout à fait, tout à fait. Alors, au milieu de ces oscillations, entre des pôles quelquefois contradictoires, il y a des lignes de force qui parcourent son œuvre, et une des lignes de force est son attachement inaltérable à l'Algérie de sa naissance.
D'ailleurs, les trois grands romans de Camus, que ce soit La Peste, que ce soit L'Étranger, que ce soit Le Premier Homme, bon, La Chute, ça se passe à Amsterdam, mais ces trois romans-là sont des romans qui se passent en Algérie. Ça, c'est quand même quelque chose qui est signifiant, probablement, pour un homme, pour un écrivain.
Oui, il a besoin de s'appuyer sur l'expérience concrète. C'est quelqu'un qui, bien entendu, a une formation intellectuelle, de philosophe, de littéraire, mais je pense qu'au-dessus de cette formation académique, il place les leçons de la vie et du concret. On l'a entendu dans ce discours encore. Eh bien, l'Algérie, c'est ce qu'il a formé. Et donc, il y revient, c'est le substrat sur lequel il peut s'appuyer. Et à partir de là, bien entendu, l'imaginaire peut aussi fonctionner. Donc, il y a dans ces trois textes, en particulier, le cadre algérien, qui a souvent et longtemps été pris pour un simple décor, et qui pourtant travaille beaucoup plus profondément qu'un décor.
Il y a l'amour de la terre, qui est donc autre chose que simplement le décor d'une histoire.
Oui, oui, il y a un attachement charnel, viscéral, sensuel à cette terre.
Qu'on peut retrouver aussi dans Nos, et peut-être même encore plus dans Nos, recueil de textes. Dans lequel on trouve Nos à Tipassa, Le vent de Djamila, L'été à Alger, Le désert, on peut citer aussi son recueil L'été. Tout ça, ce sont des textes finalement qui fêtent l'Algérie et qui fêtent les sens. Parce que pour Camus, on a le sentiment que l'Algérie, c'est un pays sensuel, c'est le pays de la sensualité.
Oui, il explique qu'il y a un rapport entre l'environnement, le climat et la façon dont les hommes vivent leur rapport au monde. Et pour lui, indiscutablement, être algérien, être méditerranéen, c'est avoir un rapport sensuel aux éléments, à la mer, à la terre.
Alors il y a aussi cette expression qui est très belle et qui est restée un petit peu à la postérité quand Camus a écrit dans ses carnets qu'il avait le sentiment de revenir vers l'Algérie, le même sentiment qu'à regarder le visage d'un enfant.
D'un enfant, oui. Il y a le mot de tendresse qui revient très souvent sous sa plume et qui est appliqué aussi bien au sentiment qu'il éprouve envers le pays que celui du pays. Il parle souvent de la tendresse du monde et de la tendresse de ce monde méditerranéen en particulier, qui est un sentiment tout à fait curieux parce que ça n'est pas une tendresse forcément dirigée à l'homme, vers l'homme je veux dire, c'est un sentiment qui se déploie comme une sorte justement d'immanence et de manifestation irrationnelle qui échappe à l'homme et dans lequel l'homme a de temps en temps, dans des sortes de noces justement, l'occasion de s'insérer. Voilà, c'est assez complexe.
Ce sont souvent des amours secrètes, celles qu'on partage avec une ville. Alger, et avec elle certains lieux privilégiés, comme les villes sur la mer, s'ouvrent dans le ciel comme une bouche ou une blessure. Ce qu'on peut aimer à Alger, c'est ce dont tout le monde vit, la mer, au tournant de chaque rue. Un certain poids du soleil, la beauté de la race. Et comme toujours dans cette impudeur et cette offrande, se retrouve un parfum plus secret. Il n'y a rien ici pour qui voudrait apprendre, s'éduquer ou devenir meilleur. Ce pays est sans leçon. Il ne promet ni ne fait entrevoir. Il se contente de donner, mais à profusion. Il est tout entier livré aux yeux, et on le connaît dès l'instant où l'on en jouit. Quand on va pendant l'été au bain du port, on prend conscience d'un passage simultané de toutes les peaux du blanc au doré, puis au brun, et pour finir à une couleur tabac qui est à la limite extrême de l'effort de transformation dont le corps est capable. Le port est dominé par le jeu de cubes blancs de la Casbah. Quand on est au niveau de l'eau, sur le fond blanc cru de la ville arabe, les corps déroulent une frise cuivrée. Et à mesure qu'on avance dans le mois d'août et que le soleil grandit, le blanc des maisons se fait plus aveuglant et les peaux prennent une chaleur plus sombre. Comment alors ne pas s'identifier à ce dialogue de la pierre et de la chair, à la mesure du soleil et des saisons? Toute la matinée s'est passée en plongeons, en floraison de rire parmi des gerbes d'eau, en longs coups de pagaie autour des cargos rouges et noirs. Mais à l'autre bout de la ville, l'été nous tend déjà en contraste ses autres richesses. Je veux dire ses silences et son ennui.
Comme elle est belle, on habaf les belles, ouais, n'en qu'on m'en ensa, Alger, Alger, j'hal en habaf.
Extrait de l'été à Alger dans le recueil Nos, justement, lu par Guillaume Gallienne. Il y a de la nostalgie dans la manière dont Camus parle de cette Algérie, qui est l'Algérie de son enfance.
Oui, bien sûr, il y a la nostalgie de l'exilé, hein, qui est un des thèmes de son imaginaire. Mais en même temps, dans L'été, qui est un recueil qu'il écrira dans sa maturité, alors que Noce est quand même un recueil qui est produit dans sa jeunesse, il a connu la maladie, bien sûr, et il a frôlé la mort, donc il sait la fragilité de la vie humaine, mais il est quand même dans sa pleine jeunesse quand il écrit Noce. Alors que, par exemple, dans L'été, il a traversé bien des épreuves et justement, il s'est, pour partie, éloigné de l'Algérie. Il vit à Paris, même s'il revient régulièrement sur sa terre natale. Alors, bien sûr qu'il y a de la nostalgie, mais il essaie justement de combler le manque par l'écriture. Et c'est ce qu'il explique dans L'été. Il y a, au fond de lui, un invincible été. C'est-à-dire que, justement, avoir été heureux, avoir connu ces minutes de bonheur, peut remplir une vie d'homme. Et pour ma part, je trouve Retour à Tipaza plus émouvant, peut-être plus fort que les premiers textes sur Tipaza, puisque à 40 ans, il revient, il sait qu'il y a un risque à revenir sur les terres où on a été heureux dans sa jeunesse.
Il y a un risque
lorsqu'on est un homme accompli, risque de la déception, risque justement d'être frustré dans ce retour, en fait, vers un temps originel, alors que ce mouvement vers le passé ne rattrape jamais l'origine. Mais il sait aussi qu'il y a un travail et qu'on peut attendre l'opportunité, le kairos, le moment opportun qui va ramener prodigieusement vers ces minutes où le temps est aboli et où on peut être heureux comme dans sa jeunesse. Donc il sait qu'il peut aussi cheminer vers ce bonheur, que c'est un travail.
Se replonger dans ce bonheur de la jeunesse, ça peut être aussi par la correspondance. J'en profite pour signaler que vous avez publié il y a quelques mois aux éditions Bleu Autour la correspondance de Camus avec ses amis Benisti. C'est aussi cette atmosphère-là quand même.
Ah oui, c'est un recueil qui effectivement publie des lettres qui s'étalent sur plus de 20 ans, mais les premières lettres sont d'un Camus de 20 ans. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir, un, la précocité de ses idées, des thématiques qu'il partage avec des amis artistes, et puis la fidélité qu'il porte à ses amis.
Et on sent que ce sont des années d'amitié, oui, entièrement dédiées à la beauté, à l'intellect, à la conversation.
Oui, oui, il y a, comme il l'a dit, d'abord une enfance heureuse, et les témoignages, enfin les lectures qu'on entend justement le rappel, une jeunesse qui est aussi heureuse, même si elle est traversée de plus d'interrogations. Il faut rappeler que dans les années 30, lorsque Camus a 20 ans, il a une vie bohème, d'abord parce qu'il ne peut accomplir le parcours qu'il souhaitait. Une fois qu'il a passé son DESS de philosophie, il ne peut se présenter à l'agrégation, donc il n'a pas la sécurité d'un emploi stable. Il doit chercher des petits métiers, des petits revenus, donc il a une instabilité. Mais en plus, ça correspond bien à une sorte de volonté de ne pas s'installer dans la vie. Donc cette vie bohème est une vie au cours de laquelle il fréquente effectivement des artistes, il accomplit des œuvres collectives, des expériences à la fois de vie quotidienne, en particulier dans cette maison devant le monde qu'il transpose dans l'amour heureuse, et qui est une maison qu'il habitait provisoirement avec trois amis, et dans laquelle il a été parfaitement heureux. Donc, dans sa vie personnelle, dans sa vie quotidienne, mais aussi dans la vie sociale. C'est l'époque du théâtre, des écritures collectives, des entreprises, justement, en équipe, qui lui plaisent beaucoup.
Donc un réel attachement, on aurait pu parler aussi de son amour des cimetières musulmans d'Algérie, oui, par exemple, où il va se balader souvent.
Oui. Alors, dans les balancements, enfin, je veux dire que si on devait chercher une sorte de, comme Léo Spitzer le faisait pour certains écrivains, de marque stylistique, il y a chez Camus un balancement, qui est un balancement rhétorique, un balancement sémantique, un balancement spirituel, qui n'est pas du tout une inconstance, hein, mais une recherche de concilier des contraires. C'est-à-dire, quand il est dans un pôle, il cherche à avoir conscience, toujours à la conscience, l'autre pôle. Il essaie de maintenir cette tension. Et donc, il y a, au sein de ce bonheur, de cette vie, effectivement, de liberté, d'insouciance, d'exaltation devant la beauté environnante, il y a aussi la dureté, le tragique solaire qu'il rappelle, Parce que la lumière de midi, par exemple, qui est à la fois blanche et noire et qui aveugle, est un rappel de la dureté, justement, du monde qui n'est pas fait pour l'homme, mais qui vit sans lui et qui, justement, est, lui, éternellement amené à se renouveler. Donc, il y a ce tragique. Et il y a aussi, dès les années 30, une ouverture, peut-être limitée au gré de certains, mais une ouverture sur les grandes inégalités du monde colonial. Mmh. Et donc, il a une volonté de se rapprocher quelque peu du monde arabe avec les cloisonnements dus à la société coloniale. Alors, certains aspects de la ville arabe, les cimetières en particulier, lui sont profondément... Des lieux qui résonnent à sa sensibilité.
Alors évidemment, l'attachement de Camus à l'Algérie fait-il de lui un écrivain algérien? C'est un peu la question que nous allons nous poser à présent.
Mengo, qu'il avait parlé mal de la sœur à Léon, Léon, il a appelé grand bâtard à Mengo. Alors Mengo, il a pris la rage. Et il a dit à Léon que sa sœur, c'est une chouarie, un wagon et un fourneau. Léon, il est venu blanc et il a été sarché des témoins. Mengo, quand il a vu ça, il a bousqué ses témoins à lui. Les témoins, après qu'ils ont blagué un moment, ils ont dit que ces insultes, ça vaut un coup de poing. Après, on a parti par en bas la plage. Mengo et Léon ont s'acquitté le panto et ils sont tapés des coups en devant les témoins. À la quatrième reprise, Léon, il a encaissé une patate qui lui casse dedans. À la cinquième reprise, Léon, il s'enganche Mengo par le mouchoir et il y sonne un coup de tête qui lui emplatit le nase et lui rouvre la bouche comme une baumarole. À la sixième reprise, Mengo, il y arrête un coup de tampon à Léon qui lui ferme un œil. Même moment, Léon, il y fout un coup de dent à Mengo qui lui lève une 10 000 livres de viande à l'épaule. À la septième reprise, Léon, il s'attrape en retraite un coup de genou en bas la pancha qui lui coupe la force. Alors Léon, il a tiré le couteau, il allait se l'enfoncer dans la poitrine à Mengo. Les témoins, ils ont arrêté la bataille en disant que l'honneur, il était satisfait. Léon et Mengo, ils ont touché la main et ils sont embrassés le doigt. Un garçon du pharmacien, il a fait ça qu'il faut pour guérir les garas que chaque il a reçus.
La compagnie des œuvres sur France Culture et Camus qui lisait avec un fort accent pieds noirs, presque parodique, un texte sur une bagarre à Alger. Alors, Camus, écrivain algérien ou écrivain pieds noirs? C'est une question qui va nous occuper un bon moment. Martine Mathieu Job, par où commencer? Peut-être que d'abord, il faudrait parler un petit peu de l'école d'Alger et expliquer ce que c'est que cette réunion d'écrivains précisément réunis par cette ville d'Alger, par leur présence en Algérie.
Alors, l'école d'Alger, c'est une dénomination qu'on utilise par commodité, mais qui n'a pas représenté véritablement un mouvement littéraire. Ça veut dire que les écrivains qu'on réunit sous ce chapeau n'ont pas proclamé eux-mêmes qu'ils
comme
appartenaient à une école.
Les écoles.
Oui, mais à la différence, par exemple, du mouvement colonial, qui se proclamait
du
comme
mouvement
tel.
De littérature coloniale.
De littérature coloniale, hein, qui avait ses tenants et ses représentants et ses prix littéraires en Algérie. Donc, ce qu'on a appelé l'école d'Alger, c'est effectivement la réunion, la convergence de volonté, d'ambition esthétique, culturelle, d'un certain nombre d'hommes jeunes qui se retrouvent à Alger.
Mais qui étaient autant des pieds noirs que des autochtones, des Algériens.
Oui.
Qu'y avait-il finalement dans
Alors,
cette école d'Alger?
Alors, il y avait... des Français métropolitains, mais qui connaissaient l'Algérie et qui y vivaient, comme par exemple Gabriel Odizio, qui avait publié par exemple « Jeunesse de la Méditerranée » en 1934 aux éditions Gallimard, et qui était une sorte d'aîné. Et puis il y avait des gens comme Albert Camus, Claude de Fréminville, et des artistes qui n'étaient pas forcément justement des gens de plume hein, ou destinés à l'être, comme Louis Benisti, dont j'ai co-dirigé la correspondance avec Camus, qui était peintre et sculpteur.
Il y avait donc aussi... l'école d'Alger, oui. C'est plus large que simplement la littérature. C'est,
oui,
c'est
voilà.
Tout un mouvement culturel.
C'est un mouvement culturel. C'est une effervescence culturelle de jeunes gens qui veulent rompre avec ce qui se faisait et qui relevait justement d'un mouvement colonial.
Ça veut dire qu'il y a... Robles aussi.
Alors il y a effectivement dans cette école d'Alger Emmanuel Robles qui est un des grands amis et des amis les plus fidèles d'Albert Camus. Ils le rencontrent en 37 et ils resteront liés jusqu'à la mort de Camus. Il y a également des écrivains moins connus parce que Camus, dans le fond, avec sa notoriété, a un peu écrasé d'autres écrivains qui seraient intéressants à redécouvrir. Emmanuel Robles, par exemple. Et puis Jean Pellegri, par exemple. Jean Pellegri, lui, à la différence de ces noms que l'on vient de citer, de ces hommes que l'on vient de citer, n'est pas un urbain, n'est pas un citadin. Il a vécu dans une propriété agricole, il a été très très proche des ouvriers arabes, il parle arabe, il connaît une Algérie que ne connaissent pas ces hommes-là. C'est pour ça qu'il y a une diversité aussi, même si ce que l'on entend, grosso modo, par cette étiquette, c'est une sensibilité, certes nouvelle et distincte de l'école coloniale, mais qui caractérise des gens qui appartiennent à cette terre, tout en ayant un tropisme culturel occidental.
Donc ils parlent de l'Algérie, mais ils ont une culture occidentale.
Oui, il y a très peu d'écrivains musulmans
Amrouche,
qui se joignent.
Amrouche, par exemple.
Jean Amrouche est le seul, il n'est pas musulman, il est berbère, il est kabyle et chrétien. C'est ce qui, sans doute, lui permet de se rapprocher assez facilement de ces jeunes gens, de fréquenter avec eux la librairie d'Edmond Charlot, qui est une sorte de rendez-vous, de lieu de rencontre et de lieu de fidélisation de ces jeunes gens. Mais ne viennent pas, par exemple, parmi eux, des écrivains qu'Albert Camus cite volontiers comme étant les écrivains algériens dont il se sent proche, ni Mouloud Feraoun, qui certes n'est pas à Alger pour toute une partie de sa vie, il n'y viendra que sur le tard, mais par exemple Mouloud Mamri, qui est un grand écrivain dont il cite beaucoup le nom, les œuvres, ou bien Mohamed Tib. Voilà des écrivains qui appartiennent à la génération de Camus, que Camus estime, qu'il rencontrera, avec lesquels il aura une correspondance et qu'il verra dès que possible, mais qui ne relève pas de cette effervescence culturelle-là.
Et alors,
ce qui est le signe des fossés culturels et sociaux de l'Algérie coloniale.
Et du coup, cette littérature coloniale à laquelle s'oppose l'école d'Alger, qu'est-ce qu'elle dit ? Qui sont les noms ? En reste-t-il d'ailleurs ?
Mais oui, la littérature coloniale, elle est encore très vivante quand Camus s'intéresse et veut s'intéresser à la littérature et sait qu'il deviendra écrivain. Et tout ce qu'il fait s'inscrit contre cette littérature coloniale. Alors, elle a ses tenants et ses théoriciens ailleurs qu'en Algérie et en Algérie. Par exemple, les relais les plus puissants sont des gens comme Louis Bertrand ou bien Robert Rondeau. Et Robert Rondeau...
Qu'on a un petit peu oublié, non ?
Oh ben oui, on les a oubliés. Ils écrivent des œuvres qui sont intéressantes à la fois sur le plan des idées, si vous voulez, parce que leur littérature, tout en exaltant cette terre algérienne, dit aussi, grosso modo, qu'elle était destinée à revenir dans le giron de la chrétienté et de la latinité.
Voilà. C'est là où il y a déjà une première ambiguïté, qui est que, finalement, l'école d'Alger est beaucoup plus progressiste, pourrait-on
oui,
dire,
elle est, franchement, oui.
Que l'école coloniale. Mais ce qu'on reproche à cette école d'Alger, c'est au fond de ne pas s'intéresser tellement au peuple autochtones, au peuple algérien, et finalement de le rendre un peu invisible dans leurs œuvres.
Alors ce reproche est fait à juste titre, mais par exemple Mouloud Mamri, l'écrivain berbère que Camus citait et qui était de sa génération, et expliquera que Camus n'aurait pu faire autrement, ni lui ni Robles. Il y avait une forme de proximité, des lieux de socialité qui, justement, faisaient que les communautés se croisaient, surtout dans les quartiers populaires, dont sont issus aussi bien Robles que Camus, qui sont tous deux des enfants, d'abord orphelins et pauvres. Et il y avait des lieux de socialité et de croisement, mais l'Algérie était une terre coloniale, avec les frontières de verre, qui faisaient que certains quartiers étaient strictement réservés à la population européenne, selon les termes d'époque, et d'autres à la population musulmane, dans laquelle on trouvait arabes et berbères. Il y avait donc cette séparation, cette... Alors, on ne peut pas dire qu'il y avait méconnaissance. Il y avait certaines occasions de s'ouvrir à l'autre. Par exemple, à l'école, à l'école primaire, Camus a des camarades qu'il gardera longtemps hein, dans son quartier de Bellecour. Donc il sait comment ils vivent, mais il explique, phénomène d'époque accentué par le contexte colonial, que jamais ils n'avaient pénétré chez eux. Que chacun se retirait après avoir partagé une partie de football, par exemple, ou bien la classe dans la journée, chacun se retirait chez soi.
Ce qui fait que dans un roman comme L'étranger, finalement, l'arabe n'apparaît qu'au moment où il se fait assassiner.
J'ai marché longtemps. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil, l'effort et les pleurs de femmes, envie de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'ai été plus près, j'ai vu que le type de Raymond était revenu. Il était seul. Il reposait sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil. Son bleu de chauve fumait dans la chaleur. J'ai été un peu surpris. Pour moi, c'était une histoire finie et j'étais venu là sans y penser. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Extrait d'Étranger, lu par Reda Kateb. C'est le moment du meurtre de l'arabe qui peut être vu et qui a été vu par un certain nombre de gens, comme par Edward Said, comme le sommet de l'effacement des autochtones dans la littérature de cette école d'Alger et en particulier dans la littérature de Albert Camus. À partir de quand finalement est-ce que cette interprétation surgit, Martine Mathieu Jeune?
Précisément à partir de l'écrit d'Edward Said, grosso modo. Un peu
donc
avant.
On est en quelle année à peu près?
80, dans les années 80. Quand paraît L'étranger, personne ne relève que cette histoire tragique se passe en Algérie. Ni Sartre, ni Étiamble, qui écrivent des articles absolument pénétrants, hein, qui justement montrent le fonctionnement stylistique, qui dit aussi une métaphysique, qui dit quelque chose du rapport et de la conception du rapport de l'homme au monde. Donc, aucun ne relève qu'il y a un contexte colonial. Et le meurtre de l'arabe est lu comme le meurtre absurde par excellence, puisqu'il n'y a aucun conflit personnel qui oppose justement Meursault à cet arabe, qu'il s'agit d'un meurtre par procuration en quelque sorte, et que ça se passe dans une sorte de déchaînement du soleil et de la nature qui semble être des acteurs bien plus actifs et volontaires que le héros lui-même. Bon. Donc pendant longtemps, personne n'a lu ce texte en mettant en avant justement qu'il y avait là le contexte algérien très spécifique. Barthes aussi, hein, qui a écrit des articles sur l'écriture blanche, puis après sur le roman solaire, ne relève absolument pas. Même dans les années 70, quelqu'un comme René Girard, qui travaille justement sur le rapport à l'écriture de la cruauté, en quelque sorte, traite encore le meurtre de l'arabe comme un meurtre qui peut s'expliquer par la responsabilité d'un homme qui ne pourrait être mis en accusation s'il n'avait pas été meurtrier, mais qui est somme toute un bouc émissaire. Il ne va pas plus loin, il ne va pas plus loin. Dans les années 60, quand même, il y a des articles annonciateurs. Pierre Nora, commence à expliquer qu'il y a là des rapports de tension sociale propre à l'Algérie.
Parce que malgré tout, il choisit faire en sorte que ce soit un arabe qui...
Tout à fait. Comment l'expliquer? Je reviens sur la chronologie, si vous voulez, de la critique, pour dire que Édouard Saïd, effectivement, est le premier à dire clairement, mais enfin, c'est insupportable de voir cet effacement, cette anonymisation de l'arabe, et cette glorification, dans le fond, de Meursault en victime, alors que la principale victime, c'est quand même l'arabe qui est assassiné. Mais il explique cela par ce qu'il appelle l'inconscient colonial, qui travaille le texte. Alors, qu'il y ait un travail inconscient qui parcourt le texte, moi je suis tout à fait d'accord. Qu'il s'agisse là de l'expression d'un esprit colonial, ou colonialiste a fortiori, je crois qu'on peut le récuser, même si le texte est beaucoup plus complexe que ne le laisse supposer son écriture.
Mais alors, quel est l'inconscient, selon vous, si ce n'est pas l'inconscient colonial qui est travaillé par ce texte ?
Oui, ce que montre le texte, c'est que il y a des tensions qui traversent la société et qu'elles dressent justement des communautés qui n'ont pas réussi à tisser du commun et à partager le territoire. Et dans le fond, ce que le texte symboliquement met en place, c'est que vouloir éliminer l'un de ce territoire, c'est se condamner aussi. Donc, si on n'accepte pas l'autre, c'est ma lecture, si on n'accepte pas l'autre, on est condamné de toute façon à ne pas jouir du territoire. Mais il y a mille et une façons d'expliquer cela. Ce qui est important, c'est que Camus a volontairement laissé à l'orée de ses textes, ses premiers textes, des personnages d'arabes, de berbères, de musulmans. Il les laisse là comme des sortes de vigies qui taraudent sa conscience. Mais il ne veut pas écrire en leur nom, les faire parler. Cela, c'est l'école coloniale qui le faisait. On faisait parler, on prenait la parole pour, et il y avait soit du paternalisme, dans le meilleur des cas, soit l'occasion ainsi de dénigrer, de rabaisser leurs paroles. Camus encourage les écrivains arabes et berbères qu'il connaît, à écrire en leur nom. Mais lui ne veut pas, ne peut pas écrire, parce qu'il ne les connaît pas de l'intérieur leur propre sensibilité, leur propre expérience.
Donc ça rejoint l'idée très contemporaine de l'appropriation culturelle. Il y aurait un refus de la part de Camus de l'appropriation culturelle, c'est ça un petit peu ?
Camus pense que il y a des différences, il le dit clairement. Par exemple, en tant que journaliste, parce que justement, non seulement il a vécu dans un milieu populaire qui l'a amené au plus près de ce que pouvait connaître un Européen de la condition arabe, mais en tant que journaliste, il est allé beaucoup plus loin. Il a fait des enquêtes, et il explique aussi lorsqu'il réprouve, et il est souvent le seul à le faire. La répression qui condamne et mutile les gens qui se révoltent à juste titre. Par exemple, lorsqu'il condamne aussi bien en 1947 les émeutes réprimées dans la violence à Madagascar qu'en 1945 à Sétif et Guelma. Ce qu'il dit, c'est il y a des différences profondes, des différences culturelles, des différences d'expérience, de vie, qui me séparent de l'Africain ou de l'arabe. Mais il y a plus de choses qui nous rapprochent. Et mépriser ou dénigrer l'autre, c'est justement mépriser ou dénigrer ce qu'il y a de commun entre nous, c'est donc me rabaisser moi-même. Ça, il faut le comprendre. Il y a un respect pour l'autre et une volonté de ne pas empiéter sur sa parole et son droit à l'expression.
Alors, on va écouter justement un autre témoignage, qui n'est pas qu'un témoignage, qui est surtout un point de vue et une analyse. C'est celui de Katab Yassine, qui a été assez critique justement sur le rapport de Camus avec le peuple algérien. On écoute ça et puis c'est un petit peu en longueur, vous allez le voir et vous allez le commenter pour nous.
D'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin, pour les indigènes, pour être... Moins brutal, moins raciste. Mais c'était au fond une position morale. Seulement morale. Parce que dans l'œuvre de Camus, on peut voir facilement que les plus belles pages de Camus, c'est quoi ? C'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle. Mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant. C'est très révélateur. Si on prend deux livres, l'un de Camus et l'un de Faulkner. On peut prendre par exemple L'étranger de Camus et Lumière d'août de Faulkner, qui peuvent très bien être comparés ici. Dans L'étranger, le personnage algérien, le seul, je crois qu'il s'appelle Saïd, c'est à peine s'il existe. On le voit tout juste, je ne sais même pas s'il dit quelques mots, et hop, il meurt d'un coup de soleil. Plus de Saïd, plus d'Algériens, et tout le reste, c'est l'Algérie française, c'est pas l'Algérie. Par contre, dans Lumière d'août, Faulkner trace le portrait d'un nègre assassin qu'il charge avec haine, même en sang, qu'il se bat avec ce nègre dans son livre. Mais ce nègre-là domine le livre. Il est, là, on sent vraiment un travail d'écrivain, un grand écrivain, parce qu'il savait de quoi il parlait. Et le grand malentendu, c'est ça, justement, ici en Algérie. Il était impossible, surtout aux écrivains. Il y a peut-être eu des exceptions. Mais dans l'ensemble, ça reposait avant tout sur une illusion, un malentendu, une situation fausse, puisque Camus vivait toujours parmi les Européens. Il n'avait aucune ouverture, et je dirais même, on pourrait l'accuser, mais il ne faut pas non plus tomber dans une autre position morale. En fait, il n'y avait pas la curiosité la plus élémentaire pour la vie de ce peuple, pour sa langue. C'était, sa vision du peuple algérien était une vision très rudimentaire, très lointaine. Et par là même, ça a infirmé son œuvre. Et on l'a vu d'ailleurs très curieusement pendant la guerre d'Algérie. Alors pendant la guerre d'Algérie, il a eu une position morale assez courageuse, puisque les pieds noirs lui ont jeté des tomates, ils voulaient même le tuer. Bon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, à un moment donné, lorsqu'il a eu le prix Nobel, il a eu une parole révélatrice. Et à un moment donné, juste après la remise du prix, il y a eu une conférence, il y avait des journalistes. On lui a posé la question, parce que sa mère était encore ici. Sa mère était encore en Algérie pendant la guerre. Et il en est arrivé à dire, moi, si je dois choisir entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. Et à ce moment-là, dans la salle, il y a justement un nommé Saïd, comme le personnage qu'il a tué dans son roman, c'est très curieux. C'est un travailleur algérien qui travaillait là-bas, en Suède, qui se trouvait dans le public, et qui lui a dit, moi je ferai pas la différence entre l'Algérie et ma mère. C'est-à-dire, quand on se sent algérien, on ne viendrait pas à l'idée, on ne pourrait pas venir à l'idée d'un Algérien de dissocier sa mère de l'Algérie. Voilà le drame, il est là.
Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, Martine Mathieu Job, ce que vient de dire Kateb Yassine dans cette archive?
Alors, Kateb Yassine, effectivement, défend là le point de vue symétrique d'Albert Camus. Il parle au nom d'un peuple algérien qui réunit arabes et berbères. Donc, effectivement, il se sent, lui, à distance d'Albert Camus et il ne se reconnaît pas dans l'univers d'Albert Camus. Ça, c'est un fait sur lequel on ne peut que lui donner raison. Il y a entre eux... Alors, moi, je suis frappée du fait que Camus était très, très curieux, de, justement, des productions littéraires de ses homologues dans les communautés indigènes. Il ne parle pas de Kateb Yassine, qui est un des plus grands. Mais on sait aujourd'hui...
C'est étrange, non ?
Oui, c'est étrange. C'est étrange parce que... Bon, qu'il ne parle pas des expériences théâtrales extrêmement intéressantes de Kateb Yassine, c'est normal parce que ça se passe à la fin des années 50. Il n'a peut-être pas eu l'occasion de s'informer. Mais qu'il n'ait jamais parlé de Nejma, qui est un très grand texte...
Dont on a rapproché parfois l'écriture, justement, de celle de L'étranger. Pour certains chapitres.
Dont on dit que c'est, dans certains chapitres, une sorte de contre-écriture, de réponse à l'écriture plate, à l'écriture du degré dite zéro
blanche,
de Barthes, hein. L'écriture blanche, oui, du début, en tout cas, de L'étranger. Et qu'il y a une sorte de volonté de rivalité. Il y avait peut-être quelque chose comme ça entre eux, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette prise de position publique que prend Kateb ici, ça n'est pas un écrivain algérien, c'est un écrivain français d'Algérie, c'est très différent. Ça ne correspond pas à ce qu'on devait faire, à ce que devait être la littérature algérienne. Il y a, on le sait, au moins une lettre que Kateb Yassine a écrite à Albert Camus en 57, donc probablement après qu'il a eu le prix Nobel, après qu'il a été justement bénéficiaire de ce prix. Et cette lettre est d'une beauté extraordinaire, tout en fulgurance poétique, comme sait le faire Kateb. lui parlant fraternellement.
Signant même fraternellement.
Oui, signant fraternellement. Et lui disant somme toute que l'histoire les a placés dans deux camps opposés, ennemis, et qu'ils n'ont pas pu faire autrement que d'être séparés par l'histoire, mais qu'il espère que, il n'a pas beaucoup d'espoir dans l'immédiat, mais qu'il espère que dans la postérité, eh bien, il y aura une réconciliation sur cette terre. Donc il va, dans ses lettres personnelles, où il est sans doute au plus près de la sincérité, beaucoup plus loin que ce qu'il ne dit de façon officielle, on va dire, un peu dans une parole publique.
Mais alors, sur Faulkner, c'est tout de même assez oui. fort ce qu'il dit, que finalement, il vaut mieux être raciste comme Faulkner.
Essayer d'aller dans le monde, justement, voilà, de ceux qu'on méprise.
Plutôt que finalement, de ne pas parler des autochtones être raciste comme Camus.
On interrogerait un écrivain noir américain, prenant Baldwin, par exemple. Eh bien, il critiquerait vertement ce qu'a fait Faulkner. Baldwin dit, il ne connaît absolument pas les Noirs américains, il n'a aucun droit de parler pour eux. Bon, donc vous voyez bien que chacun voit midi à sa porte, et qu'en l'occurrence, c'est un peu facile de renvoyer Camus à une méconnaissance complète de l'univers des populations indigènes.
Alors ça, c'était dans les années 70 à peu près, l'intervention de Kateb Yassine qu'on vient d'entendre. Ensuite, il y a donc Edward Said, dont on a déjà parlé dans les années 80, la montée aussi des post-colonial studies aux États-Unis dans ces années-là. On peut citer Abdelkader Jemahi qui dit un petit peu la même chose. Enfin, il y a beaucoup de gens qui critiquent comme ça Albert Camus. Et puis, dans les années 90, il y a d'autres voix qui vont s'élever, comme par exemple celle que je vous propose d'écouter tout de suite, c'est celle d'Assia Djebar.
Camus, je n'écrivais pas sur lui, je l'admirais, mais pour moi il était comme les amis que j'avais eus au lycée de l'autre côté. Ça veut dire, il était de mon pays, mais c'était l'autre côté. Mais par exemple, les nouvelles qu'il a écrites me permettaient de connaître le monde pied-noir, ouvrier, populaire. Et donc, quand je suis revenue en 1974 à la faculté où j'enseignais la littérature, j'étais offensée que certains prétendent attaquer Camus qui n'avait pas parlé, qui n'avait dans l'étranger parlé que de très loin. Je me disais, mais après tout, moi, dans mes livres, je ne raconte que ce que je connais. Donc, il raconte ce qu'il connaît. Mais là où j'ai été bouleversée par Albert Camus, c'est quand est sorti Le Premier Homme. Et là, dès qu'il est sorti, dès que sa fille a pu permettre l'édition de ce livre inachevé, il s'est trouvé que on était, je crois, en 94 à peu près, et je devais aller faire un semestre en Californie, à Berkeley, et je suis restée peut-être pour faire ma conférence d'ouverture qui a duré 2h30 ou 3h, je suis restée un mois entier à prendre le livre de partout, à essayer avec les notes, c'était pour moi une rencontre avec Camus d'une façon vraiment étonnante pour moi.
Là, avec Assia Djebar, Martine Mathieu Job, on est dans autre chose, on est dans la prise en compte de la littérature allégorique de Camus, de la poésie de sa littérature, et finalement ce qui la relie à la littérature de Camus, c'est autre chose qu'une analyse politique. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, selon vous ?
Oui, sans doute. Il y a une lecture qui est moins idéologique, mais ce qui change tout et ce qui ébranle sa sensibilité de lectrice et d'écrivaine qu'elle est elle-même, c'est le fait qu'on est dans les années 90, c'est-à-dire que arrive la tragédie de la décennie noire en Algérie, le terrorisme aveugle mené par les islamistes radicaux. C'est une épreuve qui permet de repenser le rapport à la violence et à la violence contre les populations civiles. Et puis, il y a la parution du Premier Homme en 94.
Qui change finalement la vision qu'on a.
Parce que Camus en a fini.
Parce qu'il parle à la première personne aussi.
Oui, tout à fait. Camus en a fini avec les grands textes allégoriques que sont justement L'Étranger et La Peste, qui sont des sortes de devoirs qu'il s'était assigné, hein, d'écrire une littérature qui répondait à des objectifs sociaux et moraux. Donc il est dans un projet philosophique, un projet éthique. Et une fois qu'il a écrit cela, et surtout après la chute qui le libère aussi de toutes les amertumes et les déceptions, il peut enfin se consacrer à ce qu'il considère être son vrai travail d'écrivain, celui qui correspond à ce qu'il avait toujours eu envie de faire depuis 37, depuis les premiers textes publiés quand il a 22 ans, et quand il a écrit ses textes à 22 ans, et qu'il sait qu'il faut qu'il s'en explique de ce rapport complexe à l'Algérie et aux siens, au milieu pauvre des petits blancs.
Donc il sent quand même que c'est une nécessité.
Il sent que c'est là que tout se noue. Et il l'explique dans une préface à la réédition de ce premier recueil en 58, en même temps qu'il est en train d'écrire le premier homme, que chaque grand écrivain, selon lui, enfin en tout cas il y a des sortes de familles d'écrivains, qui ont une chose essentielle à dire et qu'ils travaillent sans cesse cette thématique, cette topic. Et pour lui, c'est ce rapport-là, aux siens, aux pauvres, aux humiliés qui vivent en Algérie. Et c'est le projet du premier homme. Alors le premier homme, effectivement, il bouleverse parce qu'enfin Camus se livre, sans passer par le masque du mythe ou de l'allégorie, même s'il transpose, hein, il transpose sur des personnages qui sont encore des personnages romanesques, qu'il fictionnalise un peu. Mais il dit des choses très profondes en toute sincérité, quoi qu'il ait été toujours au plus près de la sincérité. Je connais peu d'écrivains qui est autant que lui cherché à avoir une adéquation entre ce qu'il était et ce qu'il écrivait. Donc il n'y a jamais eu de prise de parole, comme pouvait le faire par exemple Sartre ou d'autres écrivains engagés, qui quelquefois disaient par devoir des choses qu'ils ne pensaient pas réellement. Jamais il n'y a eu ça chez Camus, aucune concession de ce type. Mais enfin, il est complètement libéré quand il écrit le premier homme, et dans ses notes, on voit d'ailleurs des sortes de... dans les carnets de d'inquiétude un peu fébrile, un peu angoissée, qui me viendra en aide, dit-il. Il sent qu'il s'attaque à quelque chose qui va ébranler tout ce qu'il a réussi à construire et qui le tenait en équilibre précaire. Donc oui, il dit au plus près ce qu'était l'expérience de petits blancs qui ne pouvaient s'identifier ni aux grands exploiteurs blancs, qui étaient les colons tels qu'on les représente habituellement, ni aux populations indigènes dont ils étaient séparés. Mais ils ne pouvaient, les uns et les autres, vivre sans justement cette altérité. La mère de Camus le dit très bien quand il essaie de la faire venir en France et de l'installer auprès de lui à Lourmarin. Elle dit « Oui, ici c'est bien, mais il n'y a pas les Arabes. » Et dans cette parole pauvre, qui ne peut véritablement être un argumentaire, Camus comprend très bien. Il y a un monde cosmopolite qui est justement celui qui forme le tissu social que Camus aime et dont il se sent proche. Même parmi les Européens, c'est fait de métissage, de brassage. Et ce qu'il aurait voulu, ce qu'il espérait, c'est une Algérie qui puisse justement conjuguer ces différences et les rendre compréhensives les unes envers les autres.
Mais ça, c'était peut-être ne pas comprendre, de la part de Camus, le besoin, oui, tout simplement, de faire nation
naturellement
pour les Algériens.
Oui, tout à fait. Je crois que là, il y a effectivement un point d'aveuglement chez Camus qui dit toujours de l'Algérie, c'est ma patrie, mais qui n'a aucune fibre nationaliste. Or, il est français, il se sent français, il a même été patriote quand il le fallait au moment de la guerre et dans la résistance. Mais il n'est pas nationaliste et il déteste les nationalismes, mais dans le fond, il se sent européen. Lui qui est issu par la branche maternelle d'immigrés espagnols et qui a vécu avec des fils d'immigrés italiens, grecs, maltais, il se plaît dans ce monde mêlé. Et il rêve...
Oui, mais un monde mêlé où il y a quand même des
dominants
et des dominés.
Oui, des Européens, une dominante. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il rêve que, justement, par l'éducation... Il a une solution pour l'Algérie qui est une solution à la fois économique et politique. Il rêve... de donner d'abord un accès à l'éducation, une dignité. Le mot revient sans cesse. Il dit qu'il ne supporte pas qu'on humilie, il ne supporte pas qu'on réprime, mais il comprend que tous les hommes ont besoin de dignité. Il a même des prises de position anticolonialistes claires. Il est pour une représentativité proportionnelle, par exemple. Il pense qu'il faut qu'il y ait un parlement avec une représentation des populations indigènes, qui serait 10 fois supérieure à celle, même plus, de la population européenne. Donc il sait qu'il faut faire évoluer l'Algérie. Mais il ne peut comprendre qu'il y ait une personnalité distincte, une personnalité faite effectivement de culture traditionnelle et de foi musulmane. Là, ça saluait tout à fait.
C'est sans doute son angle mort. Pour revenir à la manière dont les écrivains algériens ont pu assimiler finalement l'étranger, par exemple, il y a un certain nombre d'écrivains qui disent « Moi, je me suis identifié, mais pas avec la figure de l'arabe, mais avec la figure de Meursault. » C'est le cas d'Aziz Chouaki.
Oui, parce que le projet esthétique de Camus fonctionne, c'est-à-dire que dans l'étranger, il y a effectivement le contexte algérien tenu à l'orée du récit, c'est-à-dire que c'est là, ça travaille l'imaginaire de l'écrivain, ça doit travailler aussi l'imaginaire du lecteur, sans doute, mais la fable fonctionne de manière universelle, atemporelle. Et donc, puisque c'est le drame du divorce de l'homme avec le monde, de l'étrangeté ou de l'étrangeté que l'on conçoit dans son rapport à ce monde, dans le sentiment de n'être jamais justement partie prenante de ce monde, eh bien chacun peut se reconnaître. Un arabe comme Aziz Chouaki, comme un espagnol. Dans La Peste, tout le monde peut se reconnaître. Et des lecteurs arabes comme Tahar Hussein, par
même
exemple.
Si dans La Peste, il n'y a quand même pas de musulmans du tout.
Du tout. Pas plus de juifs que de musulmans. Ça n'a pas la même portée.
On va à la messe,
on regarde
la peste,
l'histoire. Oui. Il y a à la fois un effacement, et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des petits points qui rappellent quand même cela. Par exemple, Rambert, le journaliste, qui est pris dans justement l'enfermement de la ville attaquée par le fléau de la peste. Eh bien, Rambert, quelle est sa mission lorsqu'il vient en Algérie? Il vient enquêter sur le sort des populations musulmanes.
Mais encore une fois, c'est assez ténu mince. Dans le roman.
Et puis, à deux reprises, il en est question, il ne pourra pas faire ce reportage.
Depuis la puissance coloniale pour enquêter sur... Donc il y a quand même toujours, en effet, cette petite dichotomie. Oui. Sur les thèmes, quand même, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains algériens qui se revendiquent quand même aujourd'hui encore, peut-être, enfin vous allez me
alors,
le dire,
et qui ont repris peut-être à partir des années 90, je crois que le temps fait beaucoup aussi pour aider à la relecture. Donc on voit le revirement qu'a exprimé Assia Djebbar, qui a lu comme une sorte de classique français Camus pendant toute une période, et puis qui, à partir de la lecture de L'Étranger, et parce qu'on lui demande de faire des conférences sur ce texte et qu'elle s'y plonge en profondeur, découvre un autre Camus qui tiraillait, qui avait... Alors, on le sait, hein, seulement une partie du travail qu'il projetait et qui était énorme. Et on a des notes qui sont tout à fait extraordinaires. Et donc, on ne peut que regretter qu'il n'ait pu mener à terme ce projet, parce que il prévoit, justement, des personnages, des personnages arabes et même des personnages engagés dans la prise des armes, comme le prônait le FLN, pour la défense d'une Algérie indépendante. Et il leur prête des argumentaires, il leur prête des paroles qui sont des paroles qui sont fortes et qui ébranlent. Par exemple, dans un dialogue entre Jacques Cormery et Sadok, qui est un de ses amis, qui se sépare de lui par justement l'engagement pour l'indépendance algérienne. Il, à un moment donné, dans les notes, donc c'était des brouillons qui demandaient à être étoffés en scène, Jacques Cormery lui dit « Mais enfin, c'est une folie que le terrorisme. » Et l'autre lui répond « Oui, bien sûr, il y a la raison occidentale, mais lorsque la raison nous écrase, je choisis la folie. » Du terrorisme.
On n'en a pas fini donc d'analyser dans le détail cette question sur Camus. Merci beaucoup à vous Martine Mathieu-Job. Nous renvoyons nos auditeurs non seulement au dictionnaire Albert Camus des éditions Robert Laffont, vous y avez contribué notamment sur ces questions du rapport à l'Algérie, mais aussi sur l'ouvrage que vous avez co-dirigé, La correspondance Camus avec Louis Benisti, paru en 2019 aux éditions Bleu Autour. Tout de suite la chronique.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et c'est vous qui venez nous voir aujourd'hui, Mayalen Berasategui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Aujourd'hui, vous évoquez Biribi. C'est un ouvrage consacré par l'historien disparu récemment, Dominique Khalifa, au bagne militaire français. Quel regard porte-t-il sur cet autre versant de la présence française en Algérie ?
C'est un regard très impressionniste parce que Dominique Khalifa utilise beaucoup de sources, des sources des journaux, des chansons, aussi les archives de l'armée, en même temps les discours de ceux qui sont passés par ces bagnes, qui étaient un peu partout dans l'Empire colonial, mais la plupart se trouvaient quand même en Algérie. Et sachant que entre 1830 et le tout début des années 1970, il y a quand même 600 à 800 000 hommes qui sont passés par là. Alors vous avez à la fois des bagnes, à la fois des bataillons de l'armée, dont une partie des gens sont issus des bagnes, enfin c'est très divers. Mais c'est connu particulièrement en métropole sous le nom très générique et très affreux de Biribi. Mmh. Les gens qui sont là-bas, ils vivent des expériences très très violentes, des tortures, il y en a qui meurent sur place. Bref, c'est très compliqué et c'est intense. J'ai choisi ce bouquin parce que, donc, comme vous l'avez dit, Dominique Khalifa est décédé le 12 septembre dernier. Et c'était un 19e très très brillant, quelqu'un qui s'intéressait aux marges, aux bas-fonds, à la littérature populaire, qui a un très bon style, ce qui chez les historiens n'est pas toujours évident.
Comment ?
Bref, si vous aimez le 19e siècle, foncez lire Dominique Khalifa. Dans l'extrait que j'ai choisi, il s'interroge sur ses sources. Il se dit, voilà, moi j'ai des chansons, j'ai plein d'articles de presse, j'ai plein de choses très extérieures, mais j'ai peu de témoignages des prisonniers. Donc, pourquoi ? Donc c'est fin, ça parle de solitude, ça parle de ce qu'on ne dit pas, ça parle de ce dont on ne se remet pas. Et j'ai trouvé que c'était finalement la meilleure manière de lui rendre hommage.
Alors vous allez nous en lire un extrait ?
Absolument. Toute l'organisation de Biribi vise à ce que l'oubli recouvre à jamais l'expérience. La répression élimine les plus énergiques ou ceux qui peuvent nuire au système. En dépit des crâneries de quelques fiers à bras, c'est la soumission et la suggestion qui bornent d'emblée l'horizon quotidien à Biribi. Les chansons de Bruant rendent très bien compte de cette emprise de la contrainte. À Biribi, même le plus costaud est obligé de poser sa chic. On n'a pas oublié l'appellation hautement symbolique des deux sévices militaires les plus répandus en Afrique du Nord, le silo et le tombeau, c'est-à-dire l'enfouissement et l'oubli au plus profond de la terre africaine. Se taire pendant donc, se taire après aussi, ce qui suscite la colère du petit nombre de ceux qui estiment au contraire qu'il faut dénoncer ces horreurs. Pourquoi se taisent-ils, s'indigne Dubois de Saule? Pourquoi, lorsqu'ils sortent de CGN, ne clament-ils pas partout les colères qu'ils ont ressenties? Ne dévoilent-ils pas toutes les atrocités dont ils furent victimes ou témoins? De très nombreuses raisons peuvent être invoquées. Les meneurs et les plus résolus sont souvent la cible dégradée ou les victimes des règlements de compte. L'accumulation de brimades et de peines finit aussi par avoir raison d'eux. On pousse à bout celui dont on veut la perte. D'autres, les plus nombreux, intériorisent ce système et la norme qu'ils ne contestent qu'en surface et dont ils tentent de tirer le meilleur parti. D'autres encore les reproduisent et les adaptent au fonctionnement des contre-sociétés carcérales ou délinquantes. Mais l'obstacle principal est peut-être ailleurs, dans le désir ou la nécessité de l'oubli, dans la difficulté, voire l'incapacité, à dire l'expérience douloureuse ou extrême, un réflexe fréquent au sortir de l'épreuve, et qui pousse parfois à sa déréalisation. Comment dire l'indicible ? Il est des souvenirs qu'il vaut mieux enterrer. « Tu feras comme les autres », me disait Duclos, auquel je parlais de l'avenir. C'est un extrait d'un roman qu'il cite. Quand nous aurons secoué la poussière de nos sandales sur cette porte-là, ce sera fini, le souvenir lui-même sera mort. Pourtant, lui dis-je, ces années de misère, de honte, crois-tu qu'on les oublie jamais ? Mon vieux, me répondit-il, on ne vit pas avec les morts, et un passé comme ça, il faut le laisser s'effondrer dans sa pourriture, dans son ignominie.
Merci beaucoup, Mayalen Berasategui, pour cette lecture qui est aussi un hommage de Biribi de Dominique Khalifa, publié aux éditions Perrin. La compagnie des œuvres, c'est Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Valentin Bobinet. Et puis demain, nous serons avec Jean-Yves Guérin, professeur de littérature française à Paris 3, pour parler politique, Europe et théâtre, selon Albert Camus. Dans un instant, les sciences sur France Culture.